On dirait deux vieux qui radotent.
Exactement, mais deux vieux qui écoutent la JT du local.
Ce midi, on aurait pu descendre l'escalator de la vie bien sagement à droite pour laisser passer ceux qui pressent. Mais non, on a choisi de remonter à contre-courant, de regarder autrement, de regarder les failles, les fatigues invisibles, ces secousses intérieures qui changent un corps. Et puis au passage se demander, est-ce qu'on les voit, ces failles, quand elles ne crient pas fort ? Est-ce qu'on écoute vraiment ce qui se fatigue chez l'autre ? Ou bien est-ce qu'on continue, casque sur les oreilles, sac sur le dos, en pensant qu'on est éternel ? La sclérose en plaques, ce n'est pas seulement une maladie, c'est une histoire qui s'inscrit dans le corps. C'est une bataille intime, silencieuse, et pour beaucoup, ce sont les femmes qui la portent. Alors on se demande, pourquoi elles ? Pourquoi leur corps, leur travail, leur place dans la société deviennent-ils un terrain de lutte supplémentaire ? Aujourd'hui, dans l'agité du local, on ouvre ces questions avec Mayenne Sepp qui propose le 4 octobre deux conférences à Laval sur la sclérose en plaques au féminin. Et pour en parler avec nous, Nicolas Delamarre, président de Mayenne Sepp. Avec lui, on va plonger dans ce que ces conférences veulent mettre en lumière, la sclérose en plaques, quand elle a un visage féminin. Bonjour Nicolas, merci
Bonjour
d'être avec
Margot,
nous.
Bonjour Margot, merci de me recevoir.
En seconde partie d'émission, on quittera un instant les questions de santé pour se tourner vers la terre, vers ce qui pousse au fond de nos jardins avec Naïs du CPIE de la Mayenne. On parlera jardin et climat à l'occasion d'une animation interactive proposée ce 28 septembre à l'huisserie. Parce que oui, à l'échelle de quelques mètres carrés, il se joue déjà quelque chose qui peut avoir un vrai impact sur l'environnement. C'est une animation proposée dans le cadre du mois du climat en Mayenne. Et pour terminer, il y aura ce petit rendez-vous de fin d'émission, celui qui remet un peu d'ordre dans nos envies, nos achats, nos habitudes de consommateurs parfois un peu trop naïfs, excessifs. C'est la chronique de Jean-Michel Guinaudot avec l'UFC Que Choisir, une chronique toujours utile. C'est la lampe poche braquée sur les petits pièges de la vie de tous les jours. Bienvenue à l'auditeur de l'autre radio, bienvenue aux passagers des ondes, ceux qui embarquent pour quelques minutes sans billet, sans destination fixe, juste pour le plaisir de voyager d'une voie à l'autre. Moi c'est Margot et vous écoutez votre émission quotidienne. On met les voiles tout de suite sur notre entretien du jour.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Le 4 octobre prochain, dès 13h30, l'association Mayenne Sepp organise deux conférences au quartier Ferrier à Laval autour d'une question essentielle, la place des femmes dans la sclérose en plaques. La neurologue Laure Michel sera présente pour parler des spécificités médicales de la maladie au féminin et Charlotte Tourmente évoquera l'intégration des femmes atteintes de sclérose en plaques dans le monde du travail. Nicolas Delamarre, j'ai le plaisir d'en parler avec vous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, le président de l'association Mayenne Sepp. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter en quelques mots ce qu'est Mayenne Sepp et la manière dont vous accompagnez les personnes concernées dans le département ?
Alors Mayenne Sepp, c'est avant tout une jeune association puisqu'elle a été créée par mon prédécesseur, monsieur Georges Arrivaud, en 2017. J'en suis le président depuis mai 2022. Et donc Mayenne Sepp, c'est une association mayennaise qui est là pour écouter, aider, soutenir les personnes atteintes de sclérose en plaques, mais également leurs familles, leurs aidants, ce qu'on appelle les aidants. Et donc, pour cela, Mayenne Sepp a tout un tas d'activités. Nous proposons des aides financières, comme l'aide à la pratique du sport adapté, mais également à tout ce qui touche au bien-être. Ça peut être des rendez-vous chez le psychologue, des rendez-vous bien-être et soins pour justement que les personnes atteintes de sclérose en plaques puissent justement oublier l'espace d'un soin, le quotidien de la maladie, quoi.
Finalement, ce que vous proposez, c'est un peu complémentaire par rapport au rôle que jouent les médecins et les institutions.
Alors, tout en sachant que nous, on va être là et également pour orienter, écouter. La première des choses qu'on propose à Mayenne Sepp, c'est de rencontrer les personnes touchés par la sclérose en plaques. En Mayenne, on considère qu'on est entre 450 et 600 personnes, 600 Mayennais, Mayennaises, atteints de sclérose en plaques en Mayenne. Donc la première des choses, c'est leur apporter notre écoute pour justement savoir par où ils sont passés depuis ce diagnostic, savoir ce qu'ils attendent également de l'association, savoir s'il y a des points d'incompréhension également, parce qu'un diagnostic de sclérose en plaques, eh ben, c'est pas évident. Quand vous sortez du neurologue qui vient de vous annoncer ce diagnostic, eh bien, il y a tout un tas d'interrogations, de questionnements sur lesquels on se pose légitimement toutes ces questions. Et donc, le rôle de notre association, c'est d'être là, écouter, soutenir, apporter des réponses à tous ces questionnements.
Est-ce que cette maladie, c'est une maladie qu'on diagnostique à tous les âges ou est-ce qu'il y a...
Alors oui, c'est une maladie qu'on diagnostique à tous les âges. Je vais simplement vous apporter quelques chiffres pour vous donner une connaissance sur cette maladie qui est la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est la première cause de handicap chez l'adulte jeune, non traumatique. Donc on isole tout ce qui est accident de la route. Donc l'âge diagnostique moyen, il est entre 20 et 35 ans. On a vu récemment avec les progrès de l'IRM qu'en France, on est 130 000 à avoir cette sclérose en plaques, mais qu'il y a environ entre 700 et 1000 enfants, adolescents qui ont la sclérose en plaques. Et on peut également avoir des diagnostics de sclérose en plaques vers 40 ans. Récemment, là, j'ai rencontré une Mayennaise donc, qui est en cours de diagnostic et elle a 60 ans.
En introduction de cette émission, je parlais du rendez-vous que vous nous donnez le 4 octobre au quartier Ferrier. Vous avez choisi d'organiser deux conférences sur la sclérose en plaques, enfin la place des femmes dans la sclérose en plaques. Pourquoi avoir consacré ces conférences à cette thématique? Qu'est-ce qui a motivé?
Alors le 4 octobre, c'est une conférence, mais avec deux interventions. Alors pourquoi le titre de la place de la femme dans la sclérose en plaques? Alors je sais, ce titre est un peu clivant puisqu'on m'en a fait la remarque, mais je l'assume. Je l'assume pourquoi? Parce qu'il est totalement représentatif de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est tout simplement une surreprésentation des femmes dans cette pathologie. Pourquoi? Parce que c'est une maladie auto-immune. On sait que dans les maladies auto-immunes, il y a une surreprésentation des femmes. Dans la sclérose en plaques, c'est 3 femmes pour un homme. Dans les phases dites majoritaires de la sclérose en plaques, il y a plusieurs phases. Il y a la phase majoritaire qui représente 75 à 80% des cas de sclérose en plaques, où là, on est sur ce ratio 3 femmes pour un homme. Sur les phases dites progressives, on a tendance à voir un rééquilibre et on serait plus sur 2 femmes pour un homme.
Est-ce qu'on l'explique aujourd'hui, cette surreprésentation des femmes, ou est-ce que finalement c'est encore...
Eh ben, moi, j'aurais tendance à vous dire vous êtes la bienvenue le 4 octobre, puisque moi, en tant que président de Mayenne-CEP, je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer. En revanche, on aura la chance le 4 octobre d'avoir le professeur Laure Michel, donc neurologue au CHU de Pontchaillou, que certains Mayennais, Mayennaises connaissent déjà, puisque ça peut être leur neurologue, alors peut-être pas de proximité, mais leur neurologue référent pour tout ce qui est attrait au traitement, notamment parce que c'est des traitements relativement lourds. Donc voilà. Et puis elle est vice-présidente du comité médico-scientifique de France Sclérose en Plaques, qui est la nouvelle institution qui va parler sur le territoire national de la sclérose en plaques, et là vraiment à toutes les institutions, Sénat, Assemblée nationale et autres.
Les symptômes de la sclérose en plaques peuvent varier d'une personne à l'autre. Est-ce qu'il existe des spécificités dans l'évolution ou les manifestations de la maladie chez les femmes ?
Alors, chez les femmes, oui, et c'est pour ça que j'ai voulu également cette thématique bien précise, puisque depuis que je suis président, en mai 2022, on a rencontré notamment avec Christelle, la secrétaire de Mayencep, on a rencontré des jeunes femmes qui venaient d'être tout juste jeunes mamans. Et donc, il y a différentes histoires derrière tout ça. C'est pas... Malheureusement, c'est pas anodin de vouloir donner la vie en ayant une sclérose en plaques. Il y a des protocoles à suivre, notamment si on a un traitement de fond. On a un traitement de fond donc, qui est à base d'immunosuppresseurs, donc, qui vont supprimer les défenses immunitaires, puisque quand on parle de maladies auto-immunes, en fait, les maladies auto-immunes, ce sont les défenses immunitaires qui viennent attaquer notre propre corps. Et donc, quand vous avez un traitement de fond à base d'immunosuppresseurs, en fait, ce qui va se passer, c'est que derrière, s'il y a un désir d'enfant, va falloir en parler à votre neurologue. Parce que derrière, c'est pas anodin, va falloir peut-être l'arrêter temporairement, va falloir envisager un arrêt plus ou moins à longue durée. Parce que en fait, ce qui se passe donc dans une grossesse, et notamment les grossesses chez les femmes atteintes de sclérose en plaques, les 9 mois de grossesse, si vous voulez, ils sont protecteurs. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que quand j'interviens à l'Institut de formation des aides-soignants à Laval, je leur dis régulièrement que dans l'idéal, on conseille aux jeunes femmes atteintes de sclérose en plaques qu'il faudrait être enceinte le plus souvent possible. Pourquoi ? Parce que les 9 mois de grossesse sont protecteurs. Par contre, là où le bas blesse, c'est dans la fameuse période du postpartum, les 3 mois qui suivent l'accouchement. Et c'est là où vous avez une poussée de sclérose en plaques, quoi. Et c'est là, alors, est-ce que c'est hormonal ou pas? Justement, le professeur Michel nous apportera les réponses.
On entend parfois que les femmes doivent composer avec des doubles injonctions, gérer la maladie et en même temps répondre aux attentes sociales et familiales. Est-ce que vous constatez cela dans vos rencontres avec les adhérentes, une souffrance de ce côté-là?
Cette souffrance est quotidienne, elle est plus qu'évidente, parce que quand vous avez un diagnostic de maladie en général qui entraîne du handicap et tout ça, ne serait-ce que par rapport au travail, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a voulu la deuxième intervention avec Charlotte Tourmente. Charlotte est coprésidente d'une association nationale qui justement est là pour donner de la visibilité aux femmes en situation de handicap en général, pas que les femmes atteintes de sclérose en plaques, justement dans le monde du travail. Quand vous avez une sclérose en plaques, donc déjà il y a cette fatigue. Alors les gens appellent ça fatigue, moi j'appelle ça plutôt épuisement, parce que c'est pas la fatigue de la personne lambda. Moi ce matin, je me suis réveillé prêt à penser déjà à venir à l'autre radio. À peine levé, j'étais déjà fatigué. Donc on n'est pas sur de la fatigue, on est sur de la fatigue chronique, on est sur de l'épuisement. Et donc, si vous voulez, tout ce qui est question liée au travail, mais également le retentissement social, les sorties entre amis, c'est hyper compliqué, puisque les soi-disant amis, entre guillemets, ils ne sont pas en mesure de tout le temps comprendre que ce soir, on ne viendra pas au rendez-vous, au repas qui nous ont proposé, parce qu'on est fatigué, parce que la sclérose en plaques, elle a un retentissement qui est bel et bien présent.
C'est la particularité des maladies invisibles, mais qui ont effectivement de vrais symptômes. Est-ce qu'on peut les rappeler, même si, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, d'une personne à l'autre, les symptômes ne se manifestent pas de la même manière?
Alors, dans la sclérose en plaques, il est clair qu'en en France, on est 130 000 à avoir cette sclérose en plaques, mais on est 130 000 cas différents. C'est-à-dire qu'on a des symptômes visibles et invisibles. C'est comme un iceberg, hein, la sclérose en plaques. Si vous deviez utiliser une image, c'est celle de l'iceberg. Il y a le côté visible de l'iceberg qui est relativement petit et qui correspond à des symptômes qui sont visibles. Je pense notamment aux troubles de la marche, troubles de l'équilibre, troubles moteurs en général. Mais il y a la partie immergée de l'iceberg qui est la plus importante, qu'on ne voit pas. Et dans la sclérose en plaques, c'est exactement la même chose. Donc là, vous avez les troubles cognitifs, les troubles sensoriels, troubles sexuels, troubles digestifs. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des troubles de l'humeur, qu'on va résumer par dépression, mais qui sont bien au-delà d'une simple dépression. Il y a les crampes involontaires dans les membres inférieurs qu'on appelle spasticité, donc qui sont des réflexes non commandés. Donc, et ça, c'est variable d'un individu à un autre.
Ces conférences, cette conférence qui aura lieu le 4 octobre, s'adresse aussi bien aux personnes concernées qu'au grand public. Qu'est-ce que vous aimeriez que les participants retiennent de ce rendez-vous et en quoi c'est important, même quand on n'est pas directement concerné, de s'intéresser aussi à ces maladies?
En fait, je pense que derrière cette conférence, il y a un mot qui va bien au-delà de la sclérose en plaques, c'est celle de notre vision du handicap, ce manque de tolérance par rapport à ce monde du handicap qui est toujours présent. Je vais juste rappeler un chiffre, le handicap c'est le motif numéro un de discrimination en France, et ce depuis 8 années consécutives. Donc on nous a parlé récemment des Jeux paralympiques et tout ça, sauf que le motif numéro un de discrimination il est toujours là. Et donc au-delà de la sclérose en plaques, c'est toute cette représentation du handicap en général, de la maladie. Je pense également, j'aimerais adresser également un mot, c'est à tous les aidants des personnes qui vivent cette sclérose en plaques, les conjoints, la famille, mais également des organismes extérieurs qui interviennent au domicile des gens. Et donc, c'est tout cet environnement-là qui, bien évidemment, s'est ouvert au grand public. Ça va de soi. Après, c'est tout cet environnement-là qui a besoin. Ouais, tout à fait.
Rendez-vous que vous nous donnez, c'est le 4 octobre au quartier Ferrier. Oui. Les portes s'ouvrent à 13h30.
C'est ça. Pour la première intervention du professeur Laure Michel à 14h.
Et alors, un événement est à noter également le 29 septembre.
Voilà, c'est ça, 20h, salle de l'avant-scène à Laval. Je serai présent également, puisque moi et mes collègues du collectif interassociatif sur les aidants familiaux, donc pour citer le nom de ces associations, c'est France Parkinson, 53, France Alzheimer, 53 également, et l'UNAFAM, donc qui vous donne rendez-vous ce lundi à 20h à l'avant-scène, et on parlera des aidants familiaux, donc une conférence également avec madame Annie Stocker qui est psychologue, gérontologue, qui intervient auprès d'une de ces populations-là, justement pour les aidants familiaux.
Comment on fait ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ou est-ce qu'on peut se rendre directement sur
place ?
Non,
vous vous rendez directement sur place, ouverture des portes 20h, enfin début de la conférence. conférence 20h à l'avant-scène ce lundi.
Nicolas Delamar, si un auditeur, l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute souhaite vous joindre, l'association Mayenne-Seb, comment est-ce que ça se passe?
Eh bien, pas de problème. Il est bienvenu au 06 03 43 29 89. Donc ce numéro-là, c'est le numéro de l'association. Ce qui tombe bien, c'est que c'est mon numéro de téléphone personnel également. Donc voilà. Et puis Mayenne-Seb est visible également sur Facebook. Nous avons également une page sur X, anciennement Twitter. Donc voilà.
Merci beaucoup Nicolas Delamar d'avoir été avec nous. Et bien dans quelques instants, on ira gratter un peu la terre de nos jardins avec Naïs du CPIE de la Mayenne. Mais avant de se salir les mains, on met un peu de légèreté dans nos oreilles. Un pas de côté, un pas de danse, Cléa Vincent, je m'y attendais pas. Écoutez.
J'ai cherché l'amour dans les yeux des uns des autres, mais aucun n'a fait son lit dans mon nid de chercheuse d'or. Des histoires, des entre-deux, j'en ai eu des tas, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Je me suis débattue dans les sables mouvants, j'ai érigé des remparts. Pas tenu longtemps l'amour sans horizon, je l'ai vu 10 fois 100 fois, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas. We'll be right back.
le 28 septembre dans le cadre des actions du Mois du Climat à l'Huisserie, place du Maine. On pourra découvrir une animation un peu particulière proposée par le CPIE de la Mayenne, Mon Jardin et le Climat. Donc c'est un outil ludique, interactif, qui invite à comparer deux visions du jardin. D'un côté, le jardin minéral fait de gravier et de dalles où la végétation se fait plutôt rare. De l'autre, le jardin végétalisé, riche en arbres et en plantes, accueillant toute une biodiversité. Alors, un jardin minéral, est-ce encore vraiment un jardin? C'est la question que j'ai voulu poser au CPIE. Et Anaïs Lara, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Anaïs, merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement peut-être ce qu'on appelle un jardin minéral et ce qu'on appelle un jardin végétalisé, pour rappeler à l'auditeur?
Oui, alors un jardin minéral, du coup, ça va être un jardin qui est assez classique, hein, finalement, où on a des graviers, des dalles, où en fait on a peu de végétation. Par exemple, on peut retrouver un palmier qui n'est pas forcément une espèce très adaptée à notre climat. Et donc, sur un jardin plus végétalisé, on va retrouver plus de vert, voilà, que ce soit de la tonte. Alors, on peut gérer plusieurs hauteurs de tonte, avoir peut-être un coin avec une prairie fleurie qui accueille la biodiversité, des aménagements aussi, pourquoi pas une petite mare au fond de son jardin. Voilà, ça va être un lieu beaucoup plus accueillant pour la biodiversité, mais aussi qui nous permettra de nous adapter au climat de demain avec les fortes chaleurs qui s'annoncent.
Le 28 septembre, je le disais, vous proposez donc une animation interactive pour sensibiliser à ces enjeux-là. Comment le public pourra découvrir concrètement un peu cette comparaison entre ces deux jardins?
Alors du coup, sur mon stand, je vous invite donc avec cette image où il y a les deux types de jardins, ce qui invite à discuter. Et ensuite, il y a des modules aussi sur ce stand qui sont interactifs, c'est-à-dire qu'on a des petites plaquettes où on va avoir des manettes à pouvoir disposer dessus. Donc il y a quatre thèmes différents. On a un module sur l'intégration de l'eau de pluie chez soi, donc comment mieux infiltrer l'eau par divers aménagements que je peux vous présenter. On a un module aussi sur la biodiversité dans le jardin. Donc c'est la biodiversité ordinaire, c'est les insectes, les reptiles, les oiseaux qu'on peut retrouver dans son jardin. Et du coup, l'idée, c'est aussi d'échanger sur ce que les gens peuvent retrouver chez eux, en quoi c'est important et comment aussi mieux l'intégrer et la prendre en compte. Ça permet aussi de discuter sur les pratiques de jardinage. On a un module aussi sur la faune du sol, ce qu'on retrouve dans le sol, et parfois on est un petit peu surpris de voir toute la richesse, et aussi sur le calendrier de culture. Donc là, c'est des fruits et légumes à replacer suivant les saisons, pour voir qu'on peut vraiment cultiver plein de fruits et légumes toute l'année.
Quand on parle de jardin végétalisé, pour revenir un peu sur ce qu'on disait juste avant, on peut imaginer peut-être un jardin un peu plus sauvage ou désordonné, mais alors peut-être que c'est important de changer notre imaginaire pour y voir justement plutôt de la richesse plus que peut-être un laisser-aller.
Oui, c'est ça. C'est pas forcément un laisser-aller justement. Ça peut être d'avoir plusieurs pratiques dans le jardin. Par exemple, d'avoir un petit carré pour la biodiversité dans son jardin, c'est-à-dire de laisser l'herbe pousser. Et pourquoi pas de tondre aussi des chemins d'accès dans son jardin, des petits aménagements, un petit hôtel à insectes, faire le compost au fond de son jardin, pailler ses cultures. C'est vraiment des choses qui peuvent être toutes simples et pas forcément brouillons ou qui peuvent être très esthétiques aussi.
Aujourd'hui, toutes ces questions-là, heureusement, on en entend plus parler. Je pense que le grand public est de plus en plus sensibilisé. Par contre, il reste peut-être encore une part de paradoxe parce qu'on veut effectivement plus de biodiversité dans son jardin, mais pas trop d'insectes, pas trop de bestioles visibles quand même.
Oui, c'est sûr. Après, il existe aussi des pratiques écologiques pour lutter contre les ravageurs. Hein, forcément, dans ces cultures au potager, on n'a pas toujours envie de les trouver. Mais c'est aussi tout l'intérêt d'attirer la biodiversité auxiliaire. Ce qu'on appelle auxiliaire, c'est les insectes justement qui vont attaquer ce qu'on appelle les nuisibles du coup et qu'on ne veut pas au jardin.
Est-ce que vous sentez parfois que ça touche justement à quelque chose d'un peut-être un peu plus intime quand on parle de notre jardin, du climat, ça interroge aussi peut-être notre rapport au temps, à l'effort, à la patience?
C'est ça. Et c'est tout l'intérêt en fait de se questionner, déjà d'apporter cette réflexion-là, parce que le jardin, effectivement, c'est quelque chose de très intime et c'est parfois des choses qu'on n'a pas envie de partager ou qu'on n'a pas envie d'avoir de la vie extérieure dessus. C'est se questionner aussi son rapport à la nature, tout simplement, et sur comment est-ce qu'on voit l'avenir. Voilà.
Le jardin végétalisé, vous le disiez tout à l'heure, vit au rythme plutôt des saisons, avec ses lenteurs, ses surprises, on peut dire aussi peut-être ses passages à vide. Est-ce que c'est pas justement aussi cette part d'imprévisible et de temps long qui parfois nous déstabilise aujourd'hui? On a oublié, on a perdu justement ce rapport au temps et à la nature.
Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr qu'on veut toujours faire plus vite, plus performant, plus productif. Et finalement, c'est aussi de se poser et de se dire que la nature, on ne peut pas toujours la contrôler, ou à quel prix, et qu'il faut re-questionner ça et ses propres valeurs, et se rendre compte que voilà, le jardin, c'est aussi un espace où on contrôle. Il y a beaucoup de paramètres qu'on ne contrôle pas. La météo, voilà, le climat qui change, les années plus ou moins favorables, et c'est de composer avec ça et de se dire que ça fait partie du vivant.
Parfois, on se sent un petit peu impuissant. On entend beaucoup de discours comme ça face justement aux changements un peu environnementaux. On se dit, bon, bah, nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Parfois, on dit planter un arbre, c'est penser aux générations suivantes. Mais peut-être que choisir aussi un jardin végétalisé, c'est déjà aussi une manière de transmettre quelque chose de positif pour l'avenir.
Oui, complètement. Et ça peut paraître parfois, voilà, on se sent démuni, on ne sait pas quoi faire à son échelle. C'est des choses qui peuvent être vraiment simples, et dans le cas du jardin, voilà, ça peut être simplement de réutiliser ses matières vertes au lieu d'aller à la déchetterie, les utiliser dans son compost, dans son paillage, faire du mulching, donc laisser la tonte de la pelouse sur place. C'est des petites choses qui font la différence et voilà, qui permettent aussi de se préparer au climat incertain de demain.
L'animation que vous allez proposer donc le 28 septembre à l'Huisserie, place du Maine, de 10h à 18h, je reprécise les horaires, c'est un outil qui repose sur des modules ludiques, interactifs. Ça change quelque chose peut-être d'apprendre aux plus jeunes aussi, en manipulant plutôt qu'en écoutant un simple discours?
Oui, c'est ça, c'est quelque chose de ludique, qui est très visuel aussi et attractif. Et effectivement, ça parle aussi à tout le monde, voilà, sur la biodiversité au jardin. On a la coccinelle, les insectes qu'on retrouve fréquemment. Ah bah oui, moi j'ai vu le cerisson dans mon jardin. Et ça permet aussi d'attirer un public un peu plus jeune et de les sensibiliser en fait à leur environnement.
Est-ce que peut-être parmi les différentes fois où vous avez pu proposer cette animation, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui surprend le plus le visiteur, des questions qui reviennent plus régulièrement?
C'est, je dirais, le compost qui revient le plus régulièrement. Comment gérer son compost et avec ses petites difficultés? Alors, ils ne sont pas trop mauvais, je ne sais pas quoi mettre dedans exactement. Mais voilà, il y a des petites règles tout simples à appliquer et c'est quelque chose qui se fait très bien. Et finalement, voilà, pour ne pas se sentir dépassé, on a des petits conseils à donner là-dessus.
Et donc, pour pouvoir découvrir l'animation Mon Jardin et le Climat, eh bien, on donne rendez-vous à l'auditeur de l'autre radio le 28 septembre à l'Huisserie, place du Maine. Et ça se passe donc dans le cadre des actions du mois du climat avec le CPIE de la Mayenne. Merci beaucoup, Naïs, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
L'autre radio, eh bien, c'est la vie qui passe en direct.
Et pour terminer, on ouvre chaque semaine cette petite fenêtre pratique sur nos vies de consommateurs, une fenêtre qui éclaire nos choix, qui pointe les pièges, qui redonne parfois un peu de bon sens dans la jungle des étiquettes et des promesses trop belles. C'est la chronique de Jean-Michel Guinaudeau avec l'UFC Que Choisir.
La chronique du FC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudeau.
Bonjour Jean-Michel Guinaudeau, bénévole à l'UFC Que Choisir de la Mayenne, association de défense des consommateurs. Vous avez souhaité préciser la situation sur le rappel des airbags Takata.
Et oui, tous les automobilistes ont entendu parler de ces airbags défectueux, dont certains ont causé la mort du conducteur suite à un déclenchement intempestif du système d'activation, qui est fait normalement pour protéger le consommateur, le conducteur. Il s'avère que le composant chimique de certains d'entre eux se dégrade avec le temps, surtout dans des conditions de chaleur et d'humidité élevées.
Toutes les voitures sont-elles concernées?
Heureusement non, mais beaucoup de marques ont un ou plusieurs modèles équipés de ces airbags. Les constructeurs le savent depuis longtemps et ont entamé un rappel auprès des propriétaires afin de procéder au remplacement. mais le nombre d'airbags à remplacer est colossal. Et donc, le remplacement, très coûteux.
J'ai entendu que les voitures équipées de ces airbags ne devaient plus rouler.
Ben, constatant la lenteur du rappel et devant la multiplication des incidents, l'État a pris les choses en main. Et un premier arrêté du 9 avril 2025, complété le 29 juillet 2025, a obligé les constructeurs à informer les propriétaires et de programmer leur remplacement. C'est là où les choses se compliquent pour les propriétaires. Tous les airbags ne sont pas fabriqués de la même façon, certains modèles étant plus à risque que d'autres. Pour les plus à risque, l'État a ordonné un « stop drive », c'est-à-dire une interdiction de circulation des véhicules. Le constructeur doit fournir au propriétaire un véhicule de remplacement et venir chercher la voiture chez son propriétaire pour remplacer le ou les airbags défectueux. Pour les autres, les constructeurs ont jusqu'au 31 décembre 2026 pour remplacer l'airbag. Les propriétaires ont reçu ou vont recevoir un avis du constructeur. Mais les constructeurs ne sont pas toujours informés des changements de propriétaire lors des ventes d'occasion.
Alors comment savoir si ma voiture est concernée ?
C'est très simple. Les constructeurs ayant l'obligation de créer une plateforme en ligne à ce sujet, en tapant sur le moteur de recherche le nom du constructeur et Takata, on tombe sur un questionnaire qui demande le numéro VIN à la lettre E sur la carte grise et vous avez une réponse immédiate sur votre cas particulier. Le ministère de l'écologie a mis en place une plateforme similaire et votre garage habituel, évidemment, vous donnera immédiatement l'information. Attention, lors de l'achat d'une voiture d'occasion, il faut se renseigner sur les rappels opérés sur le modèle convoité.
Y a-t-il un réel risque de continuer à rouler avec ces voitures ?
Et si la voiture est mise en stop drive, il y a une infraction et donc une amende et une immobilisation immédiate du véhicule par les forces de l'ordre. Si le véhicule en stop drive est soumis au contrôle technique, le centre de contrôle technique bloquera la voiture. En ce qui concerne les risques d'accident, ils semblent très minimes dans l'Hexagone, plus élevés dans les territoires d'outre-mer. Pour les autres cas, c'est encore moins risqué. Mais comme le temps semble être un facteur aggravant, il vaut mieux procéder au remplacement le plus tôt possible pour les véhicules les plus anciens.
Merci Jean-Michel Guinaudot. Rappelez-nous les coordonnées de votre association.
L'UFC Que Choisir de la Mayenne est joignable du lundi matin au vendredi midi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, au 02 43 67 01 18 et par mail à contact@mayenne.ufcquechoisir.fr ou sur notre site mayenne.ufcquechoisir.fr pour un renseignement ou un rendez-vous à Laval et à Château-Gontier. Et bien sûr, pour nous proposer vos services. À bientôt.
À bientôt Jean-Michel, merci beaucoup. Voilà, c'était l'agité du local. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Nicolas Delamarre d'avoir été avec nous dans le studio de l'autre radio. Merci aussi à Naïs du CPIE Mayenne et à Lénaïk Folzour qui signe la musique originale de cette émission. Nous, on rend l'antenne, mais ça continue sur les ondes de l'autre radio. À 19h, place à Novorama. Chaque semaine, une sélection de nouveaux albums indie, rock, pop, électro et des chroniques et des l'interview d'un artiste émergent. Puis à 21h, une nouveauté dans la grille. Noise the Russ, émission produite par Thierry depuis le Pays Basque, au menu punk, noise, garage rock, bref, du costaud à découvrir ensemble. Et c'est dès ce soir, 21h. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle agité du local. Ce sera notre grand format avec une question. Est-ce qu'on rit de nous-mêmes quand on rit avec Alexis Le Rossignol ? Il sera mon invité à l'occasion de son spectacle demain soir aux Angenoises, à Bonchamp-lès-Laval. D'ici là, trouvez une raison de sourire à ce mercredi, même toute petite. Ça suffit à changer la couleur du jour. S'il vous plaît, faites-le bien.
Voilà, rideau tombé pour aujourd'hui.
Mais revenez demain, on vous garde des places.